C'est bon pour la santé, un magazine animé par Sophie Stanquet et Benoît Rassette.
Femme qui a marqué le petit écran par la grandeur de son jeu, notre invitée a traversé les époques. Engagée dans plusieurs causes, jadis avec les hippies, embrassant la cause indépendantiste dans les années 80, se solidarise avec les peuples à l'international, elle ne performe pas seulement à la télé, elle performe comme citoyenne, proposant des textes, de l'espoir et beaucoup de temps aux personnes âgées. Dans les dernières années, elle refuse qu'on présente ces derniers comme des personnes épuisées. C'est avec des mots toniques qu'elle en parle. Accueillez, mesdames, messieurs, Angèle Coutu, qui performe toujours avant l'âge.
Ici Benoît Rassette, donc avec Sophie Stanquet, et surtout dans le cadre de cette troisième émission de C'est bon pour la santé avec Angèle Coutu. Très content que vous soyez là, Angèle.
Merci.
D'ailleurs, avec l'hiver, c'est pas simple.
Chanceuse en maudit, je me suis pas pété le dos, moi, ce matin, oui. Sur la glace. C'est formidable.
C'est assez inquiétant quand même, les intempéries dehors, mais vous êtes là, on est content, et il faut que vous sachiez que vous avez inspiré toute une émission avec des chroniqueuses, des chroniqueurs qui vont venir tour à tour présenter des aspects que vous défendez, que vous vivez. Et donc, je commencerai par vous poser la question.
C'est lourd.
Oui, vous trouvez? Ben là, il y a un petit tapis
laissez-moi
rouge.
Laissez-moi prendre un petit bout de mandarine avec ça.
Allez-y.
Merci. Voilà.
Ben, est-ce que vous mangez beaucoup de fruits? Ça, c'est la question que ça se posait.
OK.
Est-ce que Angèle, malgré tout le jeu, malgré tous ses engagements, a le temps de prendre soin de sa santé?
Écoutez, la prise en charge de la santé, là, à travers tout le métier, disons les 51 ans de métier, etc.
Ouais.
Quand on dit 51 ans de métier, c'est grosso modo.
Ouais.
Disons que c'est à partir de l'âge de quoi, de 20 ans, où j'avais eu un rôle dans un Théâtre populaire du Québec en tournée, en revenant des cours de Los Angeles.
Aux États-Unis.
Où j'avais utilisé une demi-bourse, pas une bourse entière, puisque j'avais signé pour déjà revenir en septembre répéter.
Pour le premier film?
Non, c'était pour du théâtre.
Oui.
En tournée, bon, disons, c'était 20 ans. Alors, on calcule, je vais avoir 72 ans tout à l'heure, le 6 février, donc on calcule à peu près le nombre d'années.
Ouais.
Mais pour répondre à la question de la santé, c'est vraiment in and out, tu sais, en dents de scie, des grands bouts où j'ai jamais été, moi, tu sais, faire beaucoup, beaucoup attention, j'aurais dû peut-être, à sa peau, à son alimentation, tout ça, non, pas vraiment. Mais par contre, j'ai donné des coups de collier pour l'illustrer, pour que les gens comprennent.
Ouais.
Exemple, je rencontre Charles Binamé, à un moment donné, je m'en vais à Cité-Amérique, passer l'entrevue, puis moi, j'y allais à contre-courant parce que j'avais dit à maman, d'ailleurs, qui m'avait, ma mère biologique qui vivait à ce moment-là, avec qui j'avais répété le rôle, j'avais trois scènes. Je dis, écoute, je ne l'aurai jamais, c'est pas moi qu'on va prendre pour faire ce rôle-là.
On parle de Borderline,
c'est sûr.
Le...
Non. C'était une série qui s'appelait... je jouais un rôle d'un drôle de personnage là-dedans, Madame Beaubassin. C'était dans une série d'époque que Charles Binavé avait montée.
Ah, Marguerite Vollant.
Oui, Marguerite Vollant.
Voilà. Ouais.
Alors, je m'en vais le rencontrer, puis je dis, écoutez, bon, j'ai dit, écoutez, là, je veux vous mettre à l'aise, M. Binavé. Je suis convaincu que c'est pour moi que vous allez prendre pour jouer ce personnage, une bonne femme, supposément mondaine, très... extraverti, je suppose être une belle femme et tout. Je dis, il y a Louise Marleau, il y en a plein, là, ici, là. Il dit, alors, on jase ensemble. Moi, j'arrivais de Venise, à ce moment-là, j'étais allé en voyage, et je lui ai apporté une espèce de petit cadeau qui venait de Venise, très jolie petite chose, qui faisait un peu époque, comme une plume gravée et tout, dans un écran. Bon, ben, j'ai dit, écoutez, ça aurait au moins valu le charme de vous parler pendant 1h30 et tout. Mais j'ai dit, écoutez, j'ai quand même appris les scènes. J'ai dit, par acquis de conscience, est-ce que je peux vous faire les scènes? C'était drôle comme ça, l'entrevue. Il dit, non, pas besoin. Il dit, moi, ça me plaît bien. Vous aurez de mes nouvelles. Alors, j'étais estomaqué. Je suis retourné chez moi. Puis le surlendemain, je crois que j'ai eu un téléphone pour dire que j'avais le personnage.
Ouais.
Et pour en revenir à votre question, j'ai perdu 33 livres.
Ah oui.
À vue d'œil, jeune, extraordinaire.
Vous avez fait ça? Vous avez accepté de perdre 30 livres?
Il ne m'a pas fait signer ça dans mon contrat.
Moi, je lui ai dit
au téléphone, écoutez, la cerise sur le Sunday, ça s'en vient, deux petits points, je vais vous perdre un 30 livres. Je vous le promets. Je ne vous ne force pas à le faire, tu sais, je veux vous dans le personnage. J'ai dit, vous verrez. Alors, j'ai perdu 33 livres. Alors, évidemment, dans les costumes d'époque, c'était vraiment parfait. C'était numéro un.
Est-ce que c'est ça qu'on commande le jeu d'actrice? Qu'on soit au service complètement
du
rôle?
Moi, je crois que ça m'a servi beaucoup parce que d'abord, ça a triplé mon énergie.
Ouais.
Quand on fait un jeûne comme ça, c'est extraordinaire, comment on se sent bien. Mais la personne qui n'est pas tellement disciplinée, qui s'appelle Angèle, n'a pas vraiment poursuivi ça. Tu comprends? Ouais. Alors, quand je réponds, c'est parce que c'était en dents de scie, par à coup, des périodes. Si, par exemple, je ne parle pas aujourd'hui parce que là, maintenant, je suis très vieille et puis on n'est plus dans ces eaux-là, mais si quelqu'un m'avait dit à l'époque, « Bon, écoute, tu me perds un 25 livres pour faire ça, Angèle, là, je te le mets dans ton contrat », je l'aurais fait sans hésiter parce que les quelques fois où j'ai fait des jeûnes, ça m'a beaucoup servi.
Ah,
d'abord,
ouais.
Ça nous remet en une grande forme. Les gens ont toujours l'impression, mais est-ce que tu arrives de vacances ou quoi? T'sais, parce que ça éclaircit notre peau, on devient en forme. J'en ai fait trois.
Je me souviens sur l'heure du temps, parce qu'on a eu le bonheur de jouer avec, pendant 7 ans avec Angèle Coutu, et que Angèle faisait des jeunes. Je me souviens qu'elle m'en parlait déjà, donc ça fait assez longtemps que...
Mais pour dire, est-ce que j'avais une discipline continue? Non. Hélas, j'étais pas bâtie de cette façon-là. J'étais plutôt patachon, j'étais plutôt dans la marge dans mon métier. Puis quand je partais, exemple d'ailleurs, vous vous rappelez de la maquilleuse qui était si fine, Micheline, qui est décédée?
Oui.
Bon.
Oui.
Alors elle me disait, écoute Angèle, quand tu vas revenir de ton 4 semaines de congé là, cet été, s'il te plaît, ne me reviens pas brune, brûlée. Parce que moi, je faisais de la plongée sous-marine pendant 11 ans. Je partais, je faisais de la plongée sous-marine, j'étais toujours en mer. Et puis évidemment, écoute, il n'y avait pas de raccord. T'sais, on faisait des scènes en studio, puis quand il fallait faire les raccords en retour, pauvre Micheline, elle s'arrachait les cheveux.
On se rappelle,
Mais c'était
très difficile pour elle.
Angèle, vous étiez belle. Je ne veux pas dire que vous n'êtes pas belle, mais dans l'ordre du temps, quand on parlait de beauté, elle était magnifique.
Mais quand on voit des vieilles photos, c'est drôle.
Mais c'est pas si drôle que ça, je trouve ça particulier.
Genre dynastie, mais des pauvres. T'sais. On disait, ah oui, tu joues dans quoi? Dynastie des pauvres. Ah oui, à Canal 10. Donc, non, c'est devenu TVR maintenant.
Donc, pour que les gens se rappellent, on parle ici de L'heure du temps qui avait été très importante là, comme série, dans laquelle jouait Sophie Stanquet, comme votre secrétaire d'ailleurs.
Oh, il y a eu le retour après
Le retour
parce que notre boss préféré, notre amour de réalisateur qui s'appelait Roger Legault, moi, quand j'ai fini de tourner Jamais 200 toi, je savais, je chantais la soupe chaude, j'avais 2 jumeaux à la maison, j'étais monoparentale. Je me dis, merde, moi, je peux pas me permettre d'être sur une tablette pour 10 ans, là, comme ça arrivait à beaucoup de comédiennes. Faire quelque chose de connu, puis à un moment donné, tu n'en entends plus parler pendant 10 ans.
Ouais, et ça arrivait beaucoup que
ça arrivait régulièrement.
Ouais.
Alors, j'ai pris mon courage à 2 mains. Une copine, elle m'a dit, écoute, t'es toujours habillée en noir, s'il te plaît, mets-toi de la couleur pour cette entrevue-là. J'allais voir Vincent Gabrielli, qui était directeur des programmes à l'époque. Alors, elle m'a affublée d'une espèce de blazer rouge, avec une épinglette. T'as pas mon style, mais je rentre dans le bureau. J'étais d'une tension absolue. J'avais déjà les paumes de main glissantes. Puis Gabrielle dit, bon, ma petite fille, détends-toi, assis-toi, là. Viens me raconter ça. Qu'est-ce que tu veux, Angèle? J'ai dit, non, je peux pas m'asseoir. Bon, ben dis, tiens-toi debout. Alors, je lui ai sorti ça pendant 5 minutes. J'ai écouté. Moi, là, je viens de finir Jamais 200 toi. Bon, tel genre de personnage, je risque d'être sur la tablette pendant 10 ans. Moi, j'ai 2 jumeaux à la maison. Je peux pas les congeler, mes 2 jumeaux. Et puis, c'est moi qui est le chef de famille. Alors, je lui ai débité ça pendant 6 minutes. Elle dit, veux-tu un verre d'eau ou quelque chose? Alors, je me suis assise et il m'a dit, je te jure, je réfléchis à ce que tu viens de me dire et je prends contact avec toi. Puis, il m'a vu l'air. Il m'a dit, non, je te rappelle. Il a vu mon début de... J'ai rien dit, mais il a vu dans mon regard. Et effectivement, j'étais en train de faire un spectacle pour l'UQAM. C'était Jean-Guy Sabourin qui montait ça. C'était une pièce de Creutz, un Allemand. C'était une femme seule en scène, pas un mot de texte. C'était un vrai défi au théâtre. Et moi, je répétais toujours et je faisais mon setup en arrière-scène. Parce que c'était qu'une manipulation d'objets. C'était hallucinant, qui finissait par un suicide. C'était incroyable, cette pièce de Creutz. Une pièce allemande. Et le téléphone sonne en arrière-scène. Oui, bonjour, je voudrais parler à Angèle Coutu. Oui, c'est moi. Roger Legault au téléphone. Et je viens de parler à Gabrielli, avant-hier. Voulez-vous venir me rencontrer? Et Roger m'a donné une vie, qui était un personnage d'une fille alcoolique. Donc, c'est exactement ça que j'avais demandé à Gabrielli. Faut casser l'image de Francine. Faut casser ça, sinon ça va me coller au faufoune pour ma vie. Puis, ça n'arrivera jamais. Il m'a donné ce rôle-là pendant 3 ans. Roger, après, je le rencontre dans le hall, il me dit... J'ai dit, écoute, n'importe quoi, Roger, des petits rôles, des caméos, n'importe quoi. Faut que je continue avec. Il dit, on va peut-être se revoir plus vite que tu penses. Et à peine une couple de semaines ou 3 semaines après, il me convoque à son bureau, puis il me montre, je vois sur son mur toute la famille de l'heure du temps, tu sais, les ramifications, une espèce d'arbre généalogique. Oui. On a eu pour 7 ans. Ah oui. Puis après, il m'a fait le même coup avec le retour.
Ah.
J'ai eu 7 ans dans le retour et il m'a sauvé la peau.
Ah.
Ce bonhomme-là, à chaque fois que je peux le faire, je lui dis merci parce que Vincent Gabrielli et Roger Legault, la même chose, les deux m'ont donné énormément de chance. Puis vous savez ce que c'est, ce métier-là, c'est aléatoire.
Ouais. Pour être actrice,
on peut pas,
en fait,
on sait jamais.
La santé, est-ce que c'est d'avoir des rôles? C'est presque ça, au fond, puisque c'est non seulement la passion, mais ce qu'il faut pour faire la vie, pour consommer, continuer d'élever sa famille,
tu sais,
etc.
Le message aux femmes, il est double, souvent.
Oui.
Hein? Ben, profites-en, là.
Oui.
Prends tout, là. Parce qu'à un moment donné, ça va arrêter.
Oui.
Puis là, la même personne te rencontre 3 jours après. T'as donc l'air fatigué. Oh mon Dieu, t'es bien plus cerné que je pensais de près. Fais attention à ta santé, fais-en pas trop. C'est toujours
tout
double
le temps,
message
tout le temps.
Pour
oui,
les comédiens. Double message.
Et donc,
t'as drôle de métier.
La santé des comédiennes, on va en discuter. D'ailleurs, Sophie Stanké, plus tard dans l'émission, on vous propose un segment sur la question. On va prendre quelques instants pour cette pause musicale, puis on va regarder d'autres aspects de l'engagement
absolument,
de la santé.
Absolument.
Nous sommes avec Angèle Coutu, bien sûr avec moi, Sophie Stanké, qui a d'ailleurs travaillé avec Angèle Coutu il n'y a pas si longtemps au théâtre.
Le bonheur.
Voilà.
Elle m'amenait du sucre à la crème de temps en temps aussi.
C'est pas très bon pour la santé, ça.
Pas très, non.
Mais c'est bon quand même pour le moral.
C'était à Noël. Elle le faisait à Noël à chaque fois, puis je l'attendais. Chaque année, si elle ne m'avait pas emmené, là, je dis, Angèle, tu m'emmènes ton sucre à la crème, s'il te plaît.
Mais tant que c'est dans les bonnes circonstances, tout va. Mais il y a quelque chose qui s'est passé quand même dans les dernières années, Angèle Coutu, puis je n'arriverai pas à le résumer, mais il reste que vous êtes une actrice qui avait surpris, qui avait obtenu des rôles, qui avait été primée, et on vous attendait pas nécessairement là tout le temps. Mais il y a eu des grands bouts. Vous avez pu travailler. Vous avez fait plusieurs sorties très importantes, notamment une à Tout le monde en parle et une autre, même il n'y a pas si longtemps, à Médium Large, à Radio-Canada, sur l'âgisme et, au fond, le droit pour les personnes âgées de continuer à donner toute leur force.
Oui.
Est-ce que c'est à ce moment-ci de votre vie la chose qui vous concerne ou qui vous motive le plus?
Oui, ben c'est évident, mais il y a des évidences. Hein? Bon,
ouais.
Combien il y a de membres dans l'Union des artistes? Un bottin absolument faramineux.
Mm-hmm.
On est un petit contingent de comédiens et d'interprètes. C'est faramineux.
Ouais.
Et il n'y a pas de travail. Moi, je connais, je vais dire, un agent parce que je ne veux pas impliquer d'autres personnes dans mes exemples, etc., actuels. Mais cette personne-là, qui avait une agence, a été obligée de se délester de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et quand est arrivé, moi, en 2017, le fameux coup, 3 jours après ma fête, le 9 février dernier, où on avait dit à mon agent, en décembre 16, elle aura une saison complète, il n'y a pas de problème, on l'adore, on l'aime beaucoup, etc., etc., et qu'on m'annonce 60 jours après, alors que j'ai laissé le théâtre d'été, pour respecter mon premier employeur, pour jamais avoir un problème de conflit d'horaire, par respect pour mon premier employeur, eh bien, la réponse a été toute simple. On ne sait pas quoi faire avec le personnage. On ne sait pas quoi faire avec le personnage.
Oh.
Je veux dire, le fond de mer d'imaginaire et d'imagination créatrice, elle est géniale au Québec. Il n'y a pas de raison, là. C'est pas parce qu'on a moins d'imagination que d'autres peuples, là. C'est pas vrai. Au contraire, ça fourmille ici dans tous les domaines, au point de vue artistique, hein. Et création, écriture, etc. C'est une fausse réponse. Il y a quelque chose là-dedans qui est tronqué.
Mais il y a quelque chose
réel
sur la perception des personnages.
Mais c'est un fait. Et c'est comme dans la vie. Tu sais, je vois, moi, j'y vais dans des résidences maintenant, là, souvent.
Où vous portez vos mots, votre poésie.
Le petit show comme Romain Michel, là, comme les comédiens itinérants de l'époque, là, arrivaient avec leurs accessoires sur un tréteau dans un village, puis s'installaient. Puis il y avait une communication avec les gens, une interaction, et c'est ça que j'aime, et que c'est ça qui m'a apporté beaucoup quand j'ai eu ce coup, là, sur la tête. Bon, j'étais probablement très naïve. Je pensais, moi, qu'il y avait une corrélation entre de cause à effet. C'est-à-dire que si t'es bon puis que tes patrons appellent même à ton agence puis t'envoient des fleurs pour te dire que c'est vraiment bon ce que tu fais puis qu'ils sont contents de ton boulot, puis qu'en même temps, ben tu sais, la métaphore est grosse, là. Tu finis dans un garde-robe, là, personnage.
Ouais. C'est vrai.
La métaphore est grosse.
Faut rappeler,
si on veut rigoler là, en masse, là, moi je peux rigoler, maintenant j'ai du recul là-dessus. Ouais. Mais la métaphore est grosse en maudit.
Ouais. Faut que les aînés sortent du garde-robe.
C'est énorme, hein?
C'est ça que vous voulez dire.
Tu retournes au garde-robe, chérie. Puis on m'a même dit un soir de party, ben. Alors j'ai dit, mais oui, mais tu sais, moi j'aurais aimé ça me dépasser.
Ouais.
Et on m'a envoyé par la gueule une phrase qui restera toute ma vie jusqu'à ma mort. Ben ouais, mais là, t'as eu un gémeau, là.
Ouais. C'est ça.
Enfin, c'est fond dans ta gueule.
Écoute,
là, va-t'en chez vous avec ton gémeau, puis caresse-le, puis mets-le sur ton divan ou dans ta fenêtre, puis regarde-le.
Quand on connaît une actrice comme ça, est-ce que c'est une consécration un peu... c'est une consécration douce à mère, au fond?
C'est une espèce d'amour haine. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui se passe. Mais ça a beaucoup à voir avec les pouvoirs, toutes les formes de pouvoir. Et moi, il y avait un copain qui avait fait une blague après, au mois de mars dernier. Il m'a dit, écoute, c'est une bonne idée. Il dit, tu pourrais envoyer une peinte de ton sang. Il dit, peut-être que, tu sais, c'est pas assez, t'as pas assez donné. Tu sais, pour être reconnaissant, juste que même ta main l'épinière, peut-être tu pourrais...
Mais
faire des blagues des fois, si elles sont ironiques, parce que sinon,
il y a tellement...
Il faut se délester de ces peines-là, à un moment donné.
Il y a tellement de différences, malheureusement, entre les hommes et les femmes comme acteurs et actrices. Je veux dire, il y a beaucoup plus de rôles d'hommes. Oui, et puis, il y a le syndrome George Clooney. C'est-à-dire, plus t'as les cheveux gris, plus t'es bon. On dit que les femmes, non.
Ouais.
Et les femmes, elles ont toute leur vie. Et les actrices doivent se... Les actrices, on leur dit que leurs cheveux gris, c'est pas beau. Que leurs rides, c'est pas beau. Mm-hmm. C'est épouvantable.
Mais que dit-on donc aux femmes âgées, en général,
ce qui est encore plus anachronique et drôle pour répondre à Bondé dans ton sens, c'est ce qu'elle vient de dire, c'est que les mêmes personnes... faut que je fasse attention, je nomme pas aucun nom ici. Les mêmes personnes qui te disaient... un an avant, ou un an et demi avant, ou deux ans à peine. Non, va pas te faire de chirurgie. Écoute, un tel, on sait plus comment photographier. On dirait qu'ils sont en plastique, ils ont plus d'expression. Et quand tu leur dis, mais pourquoi ce rôle-là que vous m'aviez dit peut-être? Non, ben non, ils ont vraiment pris quelqu'un qui était...
C'est ça.
Alors, c'est anachronique. Et c'est contradictoire, le discours.
Ouais.
Et hélas, il est toujours sur le dos des bonnes femmes, ce discours dichotomique et anachronique.
On n'a pas de difficulté à l'émission d'être féministe, et on reconnaît que les femmes sont particulièrement
lésées. On va pas faire du violoncelle là-dessus,
mais
c'est redondant.
Non, mais
tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça.
Et donc, ça tombe bien parce que dans quelques instants, on va rencontrer Laurent Trépanier-Capistran, qui est avocat, qui travaille beaucoup pour le droit des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, et qui va nous expliquer, au sens de la loi, c'est quoi l'âgisme.
C'est intéressant.
Vous êtes toujours assez bon pour la santé avec
Benoît Racette
et Sophie Stanquet, mais surtout Angèle Coutu, qui vient avec nous défendre les personnes âgées.
Je fais amende honorable, je suis très verbomoteur, pardonnez-moi.
Non, mais c'est très heureux. Non, mais c'est ça qu'on veut à la radio, c'est qu'on parle.
C'est la vie, sinon c'est la mort.
Voilà, et avec nous, Laurent Trépanier-Capistran, qui est avocat et aussi qui œuvre avec juriste à domicile, qui a l'habitude de travailler pour le droit des personnes âgées, des personnes handicapées. Alors bonjour Laurent.
Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui.
Ben oui, alors on se revoit sur cette nouvelle émission, c'est bon pour la santé. Et qu'est-ce que c'est l'âgisme? On le sait là, dans la culture, mais qu'est-ce que c'est l'âgisme au plan de la loi?
Ben, au plan de la loi, pour tout vous dire, le terme âgisme, il existe pas vraiment. On parle plutôt d'une discrimination qui va être fondée sur l'âge. Okay. Donc, ça, c'est un terme légal. Et pour vous nommer un peu l'importance du phénomène, il y a environ 9 % des dossiers à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui traitent finalement de la discrimination fondée sur l'âge. Ça, c'est donc le troisième motif qui est le plus souvent invoqué quand on parle de discrimination.
Puis quand on porte plainte, surtout, là.
Quand on porte plainte, exactement. Et donc, c'est évidemment c'est protégé par nos chartes, donc à la fois la charte québécoise et la charte canadienne. Et plus spécifiquement, comment ça fonctionne, ce mécanisme-là de protection contre la discrimination, mais en raison de l'âge? Eh bien, c'est-à-dire qu'on doit... la discrimination, elle doit être fondée sur l'âge, mais elle doit atteindre un de nos droits. C'est-à-dire qu'elle doit nous placer dans une situation où on se retrouve plus égal avec le reste de la population, où parce qu'on, en raison de notre âge, on est dans une situation d'inégalité.
Donc, par exemple, ne pas avoir les mêmes droits que quelqu'un pour obtenir un poste.
Exactement. Mm-hmm. Donc ça pose problème, c'est-à-dire que ça peut pas être seulement au niveau légal, là, j'entends, être seulement dans une attitude. Donc ça doit vraiment nous placer dans une position où on est plus sur le même pied que le reste des groupes finalement.
OK. Et comment on arrive à tester de ça, là? Vous avez une pratique. On repère des preuves, on entend des mots, on constate, on trouve un courriel à notre endroit, je ne sais pas. Comment on arrive à prouver cette espèce d'inégalité dans laquelle on nous met?
On parlait justement avec Angèle tout à l'heure au niveau de l'âge, au niveau des rôles, ou bien un producteur ou un réalisateur peut très bien dire « elle est trop vieille pour ce rôle-là », comment on pourrait revenir et puis dire « voilà, ça c'est de l'âgisme », comment on peut faire effectivement?
C'est sûr que ça pose toute une question de preuve. Et puis, chaque dossier a sa preuve qui est particulière. Mais une chose qu'on peut faire, par exemple, si on pense qu'on est victime d'une discrimination, c'est d'appeler à la Commission des droits de la personne.
Ah oui, bon point de départ.
Bon, c'est parce que, pourquoi la Commission? Parce que c'est un processus où on peut recevoir de l'aide aussi. On peut téléphoner puis dire, écoutez, j'ai vécu telle situation, j'aimerais porter plainte. Et puis, ça l'entame un processus finalement qui est à peu de coûts en fait. La Commission va évaluer notre plainte et elle va nous dire, bon, est-ce qu'elle est retenue cette plainte-là? Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais pour déposer une plainte. Donc, c'est un bon point d'entrée et c'est une belle façon aussi de montrer que ces chartes-là n'existent pas uniquement sur le papier.
Non,
mais
ça, c'est pas dans le vide. Là.
C'est pas dans le vide.
Ça,
il y a des mécanismes
dans nos vies.
Exact.
Puis cette commission-là est là pour nous, peu importe si on s'engage dans un processus de plainte ou de poursuite au tribunal des droits de la personne, par exemple.
Tout à fait. Donc là, il faut passer au travers du processus de la commission en entier avant d'en arriver au tribunal des droits de la personne. Donc ça, c'est important aussi de le spécifier. On peut pas... donc, il y a un processus à traverser avant d'en arriver au tribunal des droits de la personne spécifiquement. Là, ici.
Parfait. Il y a ce motif-là qu'on invoque parfois, discrimination sur l'âge, puis c'est important dans notre société, mais vous avez un exemple de loi qui a eu ça comme socle ou comme fondement pour protéger les personnes âgées?
Absolument. Donc, nos chartes, elles nous protègent contre la discrimination qui est fondée sur l'âge, mais elles permettent quand même aux législateurs, donc à l'Assemblée nationale, de passer des lois pour protéger certains groupes qui sont plus vulnérables. Je vous donne un exemple. Il y a un article du Code civil qui a fait son entrée récemment dans le Code suite aux efforts de Françoise David notamment, qui était supportée par d'autres personnes, mais qui traite du droit du logement et qui vient protéger les locataires qui ont 70 ans, pardon, pas 78 ans, donc 70 ans à la maison, je m'excuse.
70.
qui occupent le logement depuis au moins 10 ans et qui ont un revenu égal ou inférieur au revenu maximal pour être admissible à un HLM. Donc, ces personnes-là, si on remplit ces trois critères-là...
Ah, faut remplir les trois.
Faut remplir les trois critères. C'est des critères qu'on dit cumulatifs. Donc, c'est quand même assez exigeant, mais si on remplit ces trois critères-là, on est protégé contre la reprise ou l'éviction d'un logement par un propriétaire, par exemple, qui voudrait reprendre un logement pour quelques raisons que ce soit, par exemple, en changer la destination ou la nature, là, on a une protection supplémentaire à ce niveau-là. Il existe quelques exceptions dont je vous fais grâce en ce moment, mais c'est pour, encore une fois, démontrer qu'il y a des mesures législatives qui sont mises en place pour protéger les groupes qui peuvent être plus vulnérables. Après ça, on a le choix de les utiliser ou de ne pas les utiliser, évidemment.
il faut vraiment là, que je revienne. C'est moi qui ai dit induit peut-être les gens en erreur. Je parlais de l'âgisme qui était un peu la base de ça. C'est plus la protection des personnes vulnérables.
Oui, dont on effectivement. Parle. Là, on parle.
Je suis désolé, il fallait que je le dise. C'est pas la même place dans la charge. C'est 46, ça.
Je pense c'est 40... l'article.
Il y a un autre article, mais c'est des la protection des personnes vulnérables dont on parle.
Tout à fait.
Il nous reste peu de temps, comme
Est-ce
d'habitude.
Est-ce qu'on peut demander la proportion des femmes âgées? Parce que je suis très préoccupée par les
S'il y aurait davantage de femmes âgées.
Des femmes âgées. Parce que peut-être que mon petit exemple que je vais dire vite, c'est que ma mère biologique, dans les années 2003, 2004, 2005, elle est retournée faire valoir ses droits d'étudiante à l'Université de Montréal. Elle a fait sa gérontologie à temps plein, tout en gardant des enfants. Elle a été extraordinaire. Elle remettait des travaux extraordinaires parce qu'elle était très bonne en arts plastiques. Elle avait été professeure, elle était peintre. Elle avait un bagage culturel énorme. Jamais elle a pu se trouver un emploi parce qu'on lui disait, mais non, on veut engager, madame, des jeunes femmes qui sortent de l'université. Elle avait un bagage extraordinaire, culturel et probant. Jamais elle a pu avoir un boulot. Et ma mère était une beauté. Elle se présentait merveilleusement bien, puis elle avait l'air 10 ans plus que, moins que son âge réel. Et jamais elle a pu faire donner son droit. Alors qu'on prenait des petites jeunes filles qui sortaient de l'université, qui peut-être étaient très bonnes au point de vue des cours et des résultats de notes, mais n'avaient pas un vécu extraordinaire pour apporter au personnage. Vous comprenez? Je donne cet exemple parce que
mais
ça me touche.
Je pense, Laurent, si elle avait été, par exemple, sur un concours, on aurait pu réussir à jauger si elle avait été lésée selon son âge, mettons.
Absolument. Là, faut voir, en fait, il faut creuser
pour
voir.
On peut pas donner un avis juridique
maintenant. C'est ça, exactement. Mais il faut voir aussi, après ça, il faut aller voir qu'est-ce qu'on aurait... Quelle était la situation particulière? Mais pour répondre, j'ai pas les statistiques pour davantage pour les femmes à ce qui concerne la commission, mais là, c'est le sociologue en moi qui parle davantage.
Et êtes-vous optimiste par rapport aux lois précises, comme vous avez parlé de des certaines protections et d'outils que les gens peuvent aller chercher?
Bien, en fait, je pense qu'il faut s'emparer de ces outils-là. C'est-à-dire que le droit, il faut l'utiliser. Effectivement, il y a un travail qui appartient peut-être davantage à ma profession, mais où on doit diffuser cette information-là.
Parce que la personne âgée, d'un certain âge, elle est seule souvent et fragile.
Oui,
fragile.
Tout à fait.
Qui est le peur des représailles. Si on pourra en reparler un peu plus tard, elle a peur des représailles, c'est déterminant.
Absolument.
Maître Laurent Trépanier-Capistran, comment on pourrait conclure en 10 secondes?
Bien, j'ai envie de conclure en faisant un lien avec ce que Mme Coutu disait. C'est qu'il faut être, on se doit d'être optimiste puis de saisir les outils que le droit nous donne. Le droit n'est certes pas parfait, mais il faut saisir les outils qu'il nous donne pour arriver à se défendre. Et puis, c'est vrai qu'il y a des populations qui sont vulnérables, les personnes âgées parfois, mais il y a des organismes qui sont là pour les soutenir puis les aider à faire valoir leurs droits, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient d'ordre judiciaire ou légal.
Absolument.
Donc, c'est vous de vos droits, vous
de
en avez.
De vos droits, il y en a.
Stéthoscope.
Population vulnérable. Le gouvernement du Canada, comme énoncé avant de parler de ses politiques, est pas mal clair dans ce qu'on pourrait entendre par population vulnérable. Je le cite. Nous savons que l'environnement peut avoir un effet sur la santé. Nous savons aussi qu'au Canada, certaines populations ou groupes de personnes sont plus vulnérables aux risques présents dans l'environnement en raison de leurs particularités physiques, de leur comportement, du lieu où elles et ils habitent ou du contrôle qu'elle exerce sur leur environnement. Le site, par exemple, de Santé Canada cite maintenant des populations qui pourraient être plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants et les femmes enceintes, les autochtones, les aînés, on peut lire plus loin aussi les personnes handicapées. C'est une manière de décrire ce qui pourrait être une population vulnérable, mais c'est pas mal lié à la santé. On pourrait peut-être relire les droits maintenant, puisque tous les citoyens sont égaux en droit. Regardons de plus près la Charte des droits et libertés du Québec. Et même son article 48, où on sous-entend ce qui pourrait être une personne vulnérable. En effet, on y lit « Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation. » Alors peut-être que les personnes vulnérables, j'ajouterais,
seuls les gens qui sont susceptibles d'être exploités plus facilement. Mais regardons en pleine face la population et à partir de l'enquête québécoise sur les limitations d'activité, les maladies au Québec. On serait très étonné de voir que cette enquête souligne qu'une personne sur trois, 33,3% de la population, présente des incapacités. Donc, ça ressemble à quoi de plus proche? Une grande diversité. 4,6 personnes de la population déclarent avoir une déficience visuelle, donc d'un petit détail qu'elle ne peut voir jusqu'à ne pas voir du tout. 13,2% de la population déclare avoir une déficience motrice, donc peut-être à se déplacer. 1% de la population déclare avoir une déficience intellectuelle. Et si on rajoute à ça, une personne sur sept a l'arthrite ou une forme d'arthrite, une sur trois aura un cancer. Enfin, j'arrête là, c'est pas mal de monde qui sont différents et qui vont vivre dans un contexte qui les vulnérabilise. Alors, ce que je vous propose, plutôt de se dire qu'il y a un vulnérable ou une vulnérable de service, pourquoi on ne se fait pas une société pour qu'on soit bien le temps qu'on sera vulnérable?
Alors, on poursuit l'émission et beaucoup de préoccupations quand on vieillit, hein, quand on se demande ce qu'on doit prendre, ce qu'on doit manger, est-ce qu'on doit prendre des suppléments, à quel âge, et vraiment des questions qui nous préoccupent. Alors, Mali Pratici est avec nous, elle est naturopathe. Bonjour.
Bonjour.
Alors oui, c'est ça, plusieurs personnes se posent la question, quand est-ce qu'on doit, à quel âge on doit prendre des suppléments, est-ce que ça peut aider à notre tonus, à quel âge on doit commencer à prendre des suppléments alimentaires?
L'âge, je dirais, reste encore superficiel. Hein. Ça va être plutôt quand on parle de vieillissement, mm-hmm. on va parler plus de questions biologiques plutôt oui. que d'âge chronologique. Fait qu'on va le sentir plus dans le corps. Mais on sait qu'à partir de 50 ans, bon, le corps a un métabolisme qui va ralentir. l'absorption des aliments va être diminuée. L'acide chlorhydrique aussi. Donc,
C'est à partir de 50 ans quand même. Là. Il y a
quand
un
même
âge.
Que ça diminue, c'est sûr. Okay. Mais c'est rare qu'on va dire qu'on sent comme l'âge, de l'âge qu'on a. Souvent, on dit oh, « moi, je me sens pas comme 50, je me sens pas comme… » C'est rare qu'on va dire « c'est cet âge-là ».
Mais quand on va voir notre médecin, notre naturopathe, est-ce qu'on lui demande à 50 ans le calcium, la vitamine D, est-ce que c'est à cet âge-là qu'on doit y penser?
À partir du moment que les hormones vont changer, donc prémenopause, ménopause, c'est à partir de là qu'il y a des changements qui se font dans le corps. Là.
Et donc, on peut demander une prescription à ce moment-là?
Oui,
à ce moment-là. De se dire de prendre du calcium ou vitamine D dépendamment?
Oui.
Alors, au niveau de la mémoire, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire? Parce que ça aussi, on dit toujours... Je commence à vieillir, je perds la mémoire, à part de l'huile,
actrices,
à part l'huile de foie de morue, c'est tout ce que ma mère nous donnait, moi, quand j'étais petite, pour la mémoire, l'huile de foie de morue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la mémoire?
Ben en fait, oui, l'huile de foie de morue, qui est un excellent produit que nos grands-parents disaient, qui reste encore actuel, qui ressemble un peu aux oméga-3 qu'on utilise aujourd'hui pour la mémoire. Sinon, ça va être, on va y aller, on commence tout le temps par l'alimentation. Donc, une alimentation qui est plus alcalinisante. Donc, encore là, on parle d'éliminer les produits acidifiants, le café, les sucres.
La viande rouge.
La viande rouge, les produits raffinés, les pains, les céréales raffinées.
À force que vous le disiez à toutes les émissions,
oui,
là,
c'est ça, ça va rentrer.
Ça va finir par rentrer, tout ça.
Je te regardais pas quand je
faisais la Non, mais je
vais s'en oméga-3, est-ce qu'il y en a qui sont de meilleure qualité que d'autres? Parce que vous savez, quand on arrive devant les étalages,
oui.
c'est quelque chose, hein? En c'est effet. Un casse-tête.
C'est une bonne question qu'Angèle Coutu a.
Oui.
Est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres?
Puis il y en a des meilleurs que
d'autres. Est-ce qu'on les prend en gélules? On les prend comment, finalement?
Gélules ou en liquide, c'est vraiment la préférence de goût. Mais oui, il y a une différence de qualité. Donc, la provenance du poisson, quelle sorte de poisson, et puis la quantité d'oméga-3 dedans, parce que souvent, il va y avoir une certaine quantité d'oméga-3, mais aussi une huile pour le mélanger.
Mm-hmm.
Donc, c'est important d'aller chercher de petits poissons.
Ce qui est un peu préoccupant, peut-être que je ne veux pas extrapoler trop, mais les poissons très gros.
Oui.
ont eu plus de temps d'avoir des toxines épouvantables et des produits synthétiques et d'avaler des médicaments, etc. Alors que moi, j'avais un copain avec qui je faisais de la plongée sous-marine en République dominicaine pendant 11 ans. Et il me apporte des boîtes de sardines. Alors, dans ce temps-là, Air Transat me donnait des montants de bagages absolument hallucinants parce que je récoltais des choses pour apporter des vêtements là-bas. Et je partais avec des 30 boîtes de sardines. Il dit, c'est idéal. Alors, est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux?
Alors est-ce que c'est donc vrai?
Plus la qualité, plus les oméga-3. Exact.
Mais c'est extraordinaire, ça, Angèle. On vient d'apprendre quelque chose, là, aujourd'hui. Oui. Alors, des sardines, des petites sardines, une fois par semaine, peut-être?
Plus souvent que ça.
Plus que ça?
Ah oui, 3-4 fois à ce moment-là. Si on ne peut pas en manger 3-4 fois, c'est là qu'on va aller avec les suppléments.
Ouais. OK. Alors, on va y aller au niveau de la baisse de vue. C'est vrai que plus on avance dans l'âge et plus on sort... D'abord, ça commence par les petites lunettes de lecture.
De la pharmacie, là.
Les lunettes de la pharmacie qui commencent vers l'âge de... Des fois, c'est 45 ans.
Oui.
Même 38.
Ah oui. tous ces produits pour les yeux, là. Hein, qui disent lutéine, tant de 25% ou 25 mg de lutéine, etc. Petits fruits bleus, et antioxydants. Est-ce que tout ça, c'est réel?
C'est réel.
Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'encore là, il y a une question de qualité? Si le produit est organique ou pas? Moi, ça me préoccupe à ce niveau-là, là, à savoir, est-ce que c'est organique, bio? Est-ce que c'est préférable? Tu sais, je veux dire...
Qu'est-ce qu'on peut prendre pour les yeux? En fin de compte, on a tous un constat de se dire, bon, à partir de 40 ans, ça baisse les petites lunettes de la pharmacie, mais qu'est-ce qu'on peut acheter? Parce que c'est rare, là, que quelqu'un va nous dire, ben, prenez ça pour votre vue, améliorer votre vue. D'abord, est-ce qu'on peut l'améliorer avec ces produits?
Ben, on peut prévenir, en fait, la dégénérescence.
Oui. Ou les cataractes qui, fatalement, vont arriver à un moment donné.
De la vue. Ouais. Qu'est-ce qui va accélérer ce processus? Ça va être le tabagisme. Bien sûr. Un haut taux de cholestérol, puis un haut taux de la pression artérielle. Donc, si on a un régime, encore les oméga-3, donc deux pour un. Hein?
Les petits poissons.
La mémoire, la vue, les oméga-3, un régime riche en légumes verts. Des antioxydants.
Est-ce que la vitamine D, elle est recommandée? Disons, dans les mois où il n'y a presque pas de luminosité, comme cette année, on a un hiver épouvantable, très peu de luminosité. Je me souviens d'avoir été sur le balcon avec mon chat dans les bras, je pense 15 minutes, là, deux fois depuis quelques temps, là, parce que là, il y avait une luminosité incroyable. On en a besoin, on est tous des mammifères, on a besoin d'absorber la lumière. Est-ce que la vitamine D tous les jours est recommandée?
Tous les jours, tous les adultes qui habitent en Amérique.
Voilà.
C'est recommandé pour les adultes.
Et combiné avec le calcium.
Exactement.
Vitamine D.
Combiné avec le calcium pour l'absorption, c'est ça que tu veux dire?
Oui. Ben, c'est toujours parce que les gens prennent toujours la D séparément, mais c'est mieux de prendre calcium et D. Ouais.
Ça sera absorbé.
Voilà.
Beaucoup mieux.
Beaucoup mieux.
Calcium, vitamine D.
Il y a une petite question et non la moindre. Bon, une fois qu'on ne voit plus, une fois qu'il y a de la glace, on ne va pas prendre comme aujourd'hui. Les articulations. Moi, je pense à ma mère. C'est pas évident, ces articulations. Là. Ça craque de partout. Puis là, elle me demande toujours qu'est-ce que je dois lui acheter et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre pour les articulations?
Bien, pour les articulations, on a du curcuma.
Oui.
Le curcuma qui est très populaire.
C'est bon. Avec des patates.
Ça va en prendre pas mal.
C'est excellent. À l'indienne, hein? C'est tellement bon. Curcuma, ginkgo biloba.
Exact. Ben, ginkgo biloba pour la mémoire.
Ouais, on peut avoir des suppléments naturels qui jouent là-dedans, là.
Oui, exactement. C'est
Et tous les jours? Sans que
curcuma,
ça soit excessif?
À tous les jours. Oui. On peut aller jusqu'à 400 mg trois fois par jour. Mm-hmm. Le curcuma va être bon pour les tumeurs, anti-cancer, anti-inflammatoire. Oui. C'est bon pour la digestion aussi, comme je disais, plus on vieillit, la digestion est moins facile. Puis c'est une source d'antioxydants vraiment puissante.
Okay. Et absolument, on était en Inde, il fallait tout arroser de ça, parce que ça passe mieux, tu sais, la bouffe absolue sur la route, là, en plein soleil, il y a curcuma.
Mais alors, les articulations, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que ça peut redevenir un petit peu, à part, est-ce qu'il faut les pousser? La personne qui a vraiment des problèmes au niveau des genoux, est-ce qu'elle doit continuer à marcher, continuer à faire d'exercices
On recommande des exercices sans impact, par exemple comme la natation ou le vélo, qui va aller continuer à donner le mouvement aussi. Puis pour renforcer la musculation autour, mm-hmm, qui mm-hmm. va aider pour empêcher pour aider à l'équilibre, puis empêcher les chutes aussi.
Même la Société de l'arthrite recommande de ne pas devenir inactif. Non, évidemment, il faut faire attention, c'est sans ça, impact, mais devenir inactif, c'est de renforcer...
Et même les exercices chez soi. Mm-hmm. Tu sais, ça coûte pas un sou. Tu sais, je pense aux gens là, qui ont un hiver très dur, là, puis disent, oh mon Dieu, mon cours de natation cette semaine, c'est il ça. Fait 25 en dessous, là, tu sais, puis il y a de la glace dehors. Mais je crois que les exercices, moi, je fais des exercices de jambes au mur, là, le torse, tu sais, à terre.
Ou bien le dos contre le mur,
oui,
là,
oui,
c'est
oui.
terrible.
Et,
ça,
et les jambes et les orteils bouger au niveau des poignets, des chevilles.
Exactement.
Ça a l'air idiot, mais si on le fait tous les jours, tous les jours, c'est formidable.
Mais donc, le yoga aussi, c'est excellent.
Les étirements, vous épuisez les thèmes de l'année. mais moi, j'ai envie de vous dire une chose. Par exemple, vous ne le savez peut-être pas, je vais révéler un secret, mais notre Angèle Coutu a déjà été porte-parole d'une entreprise qui faisait des produits naturels.
Ah, donc, c'est trop
connaissant. Ben comment ça se fait que tu es au courant?
Ben, il faut bien faire
ça,
un peu de recherche.
C'était l'alco. Puis j'ai adoré cette époque-là.
Oui,
c'est un petit aparté, là, je ne vais pas prendre du temps sur votre technique et tout. On allait dans les pharmacies, j'avais une acolyte qui était contente de sortir de la compagnie parce qu'elle travaillait à mettre des pilules et dans des boîtes et tout. Puis on partait ensemble, on faisait des 4 heures de pharmacie un peu partout dans le Québec. Puis on faisait goûter, puis on parlait aux gens.
Ben c'est pour
c'était
ça,
adorable. J'ai un très bon souvenir
donc
d'elle.
C'est pour ça que,
je me rappelle les
suppléments et tout ça, elle le connaît très bien.
Mais je pense que c'est le dosage aussi, des fois, que les gens savent pas.
C'est ça, les dosages,
est-ce
qu'on a les
contre-indications?
Moi, certaines plantes, oui.
Des fois, il y a une petite crainte journellement, là, si on
se
dit...
Je crois que
c'est
aux 3 mois, je crois qu'il y a une prise de sang, si je ne m'abuse. Allez voir, par exemple, calcium et vitamine D.
Oui, il y a des tests qu'on peut faire.
Oui.
Ouais.
D'aller voir aux 3 mois. Par exemple, s'il y a une prescription qui a été faite il y a 3 mois, pour savoir si tout se passe bien dans le sang et tout.
Oui.
3 mois plus tard, après avoir fait changer le dosage, on peut aller voir notre médecin, puis le médecin va dire, c'est parfait.
Prise de sang.
Mm-hmm. Voilà, prise
avoir
de sang.
Avoir une indication, au moins, de ce qui se passe. Là. Oui,
oui. Dépendamment aussi, certaines plantes ont des interactions avec les médicaments qu'on prend, donc il faut faire attention.
Est-ce que le curcuma, le ginkgo biloba, peut avoir des... Est-ce qu'il y a des interférences, comme le millepertuis, par exemple?
Oui,
ça, c'est dangereux. Et des fois, on dit, prenez pas ça,
ça
si vous prenez du... Mais le ginkgo,
Ginkgo, curcuma, ça va être surtout avec les anticoagulants.
Et
supplément de poisson, là, quel est le... Sans donner vraiment de marque, mais est-ce qu'il y en a une qui fait pas que on a des rapports de poissons?
Ouais,
c'est très
des
relents de poissons, c'est très désagréable.
Ouais, c'est désagréable. Soyons pratico-pratiques.
Alors, c'est en gélule ou bien alors il faut les prendre durs pour pas que ça fasse ça?
Ben, en gélule, mais c'est, comme que je disais, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va avoir des rapports puis que ça sent, c'est la qualité.
Oh.
Comme c'est le il va y avoir peut-être 50% de l'huile de krill, puis le reste, ils vont mettre une autre huile.
Donc,
c'est ça qui va nous faire des rapports. Mais si c'est une bonne qualité, on n'est même pas supposé de le goûter.
Ah bon?
Donc, on regarde ça derrière l'étiquette, que c'est 60%?
Ouais, c'est
supposé
ça
d'être
écrit.
Ouais, huile de krill.
Et donc, l'ail, les gélules d'ail, est-ce que c'est vraiment bon?
Ben, ça
c'est
va
ça,
être,
je voulais avoir votre opinion là-dessus.
Ben, ça va être... On pourra parler peut-être... on vous laisse en consultation. Je pense que c'est ça qui doit arriver.
On peut en parler longtemps des suppléments.
Voilà. Il faut remercier Mali Pradichit, qui
est naturopathe. Et qui revient, mesdames, messieurs, toutes les semaines à l'émission.
Oui.
Voilà.
Avec grand plaisir.
Merci.
Merci.
Thank you.
c'est aussi bon pour votre santé. Dites-nous en plus sur Facebook en visitant la page Canal M, la radio de Vuzévoix, ou en repérant @canal_M sur Twitter.
Alors, mesdames, messieurs, vous êtes en compagnie
de Benoît Racette
et de Sophie Stanquet. On poursuit avec, on a parlé donc des suppléments alimentaires, on couvre vraiment tous les dossiers et on est en compagnie d'Angèle Coutu aujourd'hui qui est là pendant toute l'émission, notre invitée spéciale. Ça nous fait grand, grand, grand plaisir et particulièrement à moi qui a travaillé avec elle pendant des années, j'ai toujours été une admiratrice. Alors, ça. Voilà. Alors, Claudine Larivière, nutritionniste et spécialiste de productivité humaine. J'adore ce titre-là. Alors, on parle du vieillissement. Bon, oui. Le corps, c'est ça. Souvent, les gens nous disent, la tête, elle suit, le corps ne suit pas.
Exact.
J'ai 70 ans, mais je me sens comme une adolescente. Souvent, les gens disent ça, mais pas adolescente dans le corps.
Pas physiquement.
Pas physiquement. Parce que, à un moment donné, les muscles... s'atrophie, le corps change, les régimes sont plus faciles à faire, on ne sait pas trop si on doit manger trop de ci, trop de ça, ouais. Et c'est important. Et d'ailleurs, pourquoi cette masse musculaire, on a de la difficulté plus on vieillit et dans la vie?
Oui, en fait, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui se questionnent, on parle beaucoup du métabolisme qui va ralentir, donc c'est une terminologie ou une excuse que je reçois beaucoup, surtout de ma clientèle féminine, là, passé 45 ans, 50 ans, ça commence à se poser des questions à ce niveau-là, mais en fait, c'est qu'il faut comprendre que la sarcopénie du vieillissement, donc qui est une diminution de notre masse musculaire de façon naturelle, arrive dès l'âge de 30 ans.
Aha.
C'est déprimant, ça.
Oui, je le sais.
Non, c'est
heureux.
C'est ce que je disais plus tôt. On est tous en processus de vieillissement.
Absolument, voilà. Absolument.
À partir de 30 ans,
de 30 ans.
À 30 ans, on recule?
C'est fini. Non. En fait, c'est que la masse musculaire va commencer à diminuer à raison de 1 à 5 par décennie. Et à partir de 45 ans, 50 ans, on va dire même une diminution de 1 % de notre masse musculaire à chaque année. Mais on peut rendre ça réversible, en fait. Et c'est là que les gens se posent beaucoup de questions et qui ne connaissent pas vraiment ce qui peut être mettre en place justement pour renverser cette situation-là. Donc, une des choses, je suis nutritionniste, mais évidemment, l'activité physique, c'est quelque chose qui est hyper important. Mmh. Et si on ne donne pas souvent le message à notre corps qu'on a besoin de préserver une masse musculaire, bien comment est-ce que notre corps peut savoir qu'il en a besoin de cette masse musculaire-là?
Mmh. Tout à fait.
Donc, il faut au moins commencer par lui envoyer le message. Et là, on ne parle pas d'entraînement intensif de 60 minutes au gym, là. On parle simplement des bonnes marches actives.
Mais comme disait Angèle, on n'est pas obligé de sortir. Là, il y a de la glace. Là. Les gens sont chez eux. On peut se faire une routine à la maison.
Absolument. Donc, moi, ce que je fais pour... j'ai beaucoup ma communauté en ligne. Donc, je pratique en ligne beaucoup avec mon entreprise. Et je vais partir des défis, en fait, de 21 jours, de 30 jours avec ma clientèle. Puis, on se fait des petits entraînements de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, simplement pour activer les muscles le matin, se dégourdir, puis vraiment dire à notre corps, justement, hey, cette masse musculaire-là, j'en ai besoin, je veux l'entretenir, elle a une mission.
Oui, parce qu'elle diminue. Ça, c'est prouvé, elle diminue.
Absolument.
Donc, il faut qu'elle bouge.
Il faut envoyer le message au corps qu'il faut la préserver, cette masse-là. Et ce que ça va faire, c'est que ça va permettre au métabolisme de demeurer actif. Le problème avec les gens, c'est que souvent, ils sont pris dans leurs habitudes et vont continuer à manger de la même façon qu'ils le faisaient à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Puis là, à un moment donné, hey, Claude, je comprends pas, mais je prends 10 livres par année. Pourtant, j'ai rien changé à mon alimentation. Mais c'est qu'on n'a pas activé le corps pour lui dire, il faudrait maintenir cette masse musculaire-là qui est responsable de l'énergie qu'on va brûler à chaque jour. Donc, le fameux métabolisme.
Est-ce qu'on peut se donner un temps, par exemple, avec l'âge, se dire à partir de tel âge, je dois bouger tant de minutes par jour, c'est important quand même de se mettre des limites ou des temps.
À tous les âges, mais particulièrement, je pense que justement, quand on commence à avoir des petits bobos qui sortent, puis là, on commence à se dire, qu'est-ce qu'il faut... Malheureusement, les gens vont souvent se dire, c'est la vie. Je commence à vieillir, c'est la vie, les bobos apparaissent.
Mais en fait, les bras, il faut pas baisser les bras.
Exactement, okay. On a toujours le dernier mot sur notre situation, mm-hmm. notre condition physique, sur notre santé. Ça, c'est le mot d'ordre, je pense, là. Vraiment, c'est de regarder son alimentation, de réévaluer son niveau d'activité physique. Qu'est-ce que je pourrais faire un petit peu plus pour améliorer ma situation? C'est de vraiment se fixer aussi des objectifs qui sont concrets, qui sont réalistes, parce que des habitudes, ça prend du temps à mettre en place. C'est inconfortable au début, c'est de bien s'entourer. Évidemment, l'alimentation, mais c'est de vraiment bien équilibrer en fonction des besoins du corps. Souvent, on va justement se dire, j'ai toujours fait ça, donc ça devrait fonctionner. Alors qu'il faut modifier notre approche. Si on bouge plus, manger plus aussi.
Mais est-ce que, on voit souvent chez les personnes âgées, que la au niveau de l'alimentation, ça diminue le soir. Oui. Souvent, on les voit avec une petite soupe et tout ça. Oui. Est-ce qu'il faut s'écouter, c'est-à-dire les écouter ou leur dire « mange un peu plus » parce qu'on voit souvent que ça, l'appétit diminue. Dessous.
Absolument. Ouais,
ça diminue.
Ça,
c'est une problématique. Et là, la masse musculaire diminue. Puis moi, j'ai l'impression que ceux qui sont un petit peu plus enveloppés sont en meilleure santé quand ils vieillissent que celles qui sont maigres. Mais si les maigres, on dirait que ça, c'est, ils attrapent
les personnes qui ont un poids un petit peu plus petit. Ouais. Oui, mais en fait, c'est que c'est sûr que si on a plus de masse musculaire, plus on est lourd, plus on doit supporter ce poids au quotidien. Donc, plus
on
ne
parle
demande.
Pas d'obésité. Là.
Pas nécessairement. Généralement, si je suis plus lourd, je dois avoir une masse musculaire qui me permet de soutenir, de transporter cette masse musculaire, de transporter ce poids au quotidien. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que je vais avoir un avantage dans le sens que je vais avoir un peu plus de muscle. Et plus j'ai du muscle, plus j'ai faim. Donc, j'aurai un meilleur appétit. C'est comme un cercle vicieux, en fait. Okay. Plus ma masse musculaire elle est élevée, plus mon métabolisme est élevé, plus mon appétit est élevé.
C'est intéressant, ça.
Alors, plus je diminue ma masse musculaire, plus je perds de l'appétit. Et dans le contexte du vieillissement, ça fait du sens, n'est-ce pas? Donc, c'est de, premièrement, regarder la base de l'alimentation. Si ce n'est pas suffisant pour répondre aux besoins, on va augmenter par une belle stratégie pour aider la personne à augmenter. Puis, complémentairement à tout ça, on va faire bouger aussi plus la personne pour dire au corps « il m'en faut du muscle ». Et là, on va réactiver l'appétit, on va réactiver le métabolisme et là, la roue va commencer à tourner. Puis on est capable de renverser le processus.
Et quelles sont les erreurs que les personnes âgées font justement au niveau de l'alimentation? Là, puis qu'on est toujours obligé de leur dire « non, non ».
Oui, ils sont vraiment très ancrés dans la culture québécoise. Là, si on reste dans le contexte québécois, là, c'est vraiment le steak, blé, patate. Là. Je l'entends très, très, très souvent. Ouais. Donc, c'est d'éduquer beaucoup les gens sur les différents aliments qui peuvent être insérés dans l'alimentation. Puis aussi, de ne pas juste miser sur les protéines, les fameuses protéines. C'est aussi d'aller vers les glucides. Donc, les protéines, ça soutient la masse musculaire. Donc, ça forme le muscle. Mais les glucides, donc le riz, les pommes de terre, le pain, souvent on a une peur bleue de ces aliments-là. En fait, eux, ils viennent vraiment nourrir la croissance de nos muscles. Alors, c'est super important aussi de bien équilibrer notre assiette en fonction de tout ça.
Et le maudit gluten à travers tout
ça. Oh, mon Dieu! Mais écoute, c'est une autre émission.
Non, mais écoute, moi, je suis pas là-dedans, sauf que j'ai observé beaucoup de choses. Je me suis rendu compte.
C'est une mode.
J'ai reçu hier quelqu'un qui m'a amené, là, qui est responsable pour la musique à l'Oratoire Saint-Joseph, des concerts d'orgue et tout. Elle s'occupe de toute une infrastructure, une femme extraordinaire que j'aime beaucoup, qui est une Kérouac d'ailleurs, qui est dans ma descendance. Et elle est venue le matin manger chez moi hier matin, et j'avais des palmiers, j'avais des croissants et tout. Je fais pas ça souvent, là.
J'adore.
Une fois de temps en temps.
Je veux dire, tout ça, là, absolument. Ça ne me va pas du tout. Mm-hmm. Et je vais prendre des toasts avec pain multigrain, avec des graines de toutes sortes.
Ça marche pas.
Et ça marche, ça.
Oui, ça marche.
Ça va. Okay. Ça me donne pas du tout de relent, là, tu sais, dans l'œsophage. C'est vrai que, j'ai eu une année épouvantable, puis je suis devenue très nerveuse avec tout
avec
ça.
L'alimentation.
Donc, l'alimentation aussi, ça c'est devenu plus lourd à porter et à observer.
Oui.
Mais je me rends compte que c'est des aliments plus entiers, manger plus des petites choses et des petits repas et faire davantage... attention à mon combinaison alimentaire.
Absolument.
Les repas lourds, là, moi, là, un peu plus, là. peut plus faire ça.
C'est ça qui change.
Impossible.
Alors, hein?
Donc, absolument.
Les
il doit y avoir d'autres femmes de mon âge comme ça, à 71 ans, là, qui sont comme
absolument.
Moi.
Absolument. Ouais. Mais c'est souvent, c'est que, premièrement, il y a tellement de facteurs qui vont faire en sorte qu'une personne va être plus sensible au gluten, d'autres personnes vont le suivre par tendance, comme on disait. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de s'alimenter. C'est vraiment selon nos valeurs puis selon
mais
ce qu'on mange.
Mais c'est intéressant ce que dit Angèle. Oui. Les repas lourds, ça ne suit plus.
C'est que
plusieurs personnes me disent ça, oui. Les personnes âgées, ils se disent, moi, je suis plus capable de manger comme je mangeais avant, là. La moitié d'un steak, la moitié de... Alors,
ouais, ouais, absolument, mais je pense que c'est ça, notre digestion va beaucoup changer, les enzymes vont changer, puis dans votre cas, Angèle, ce que j'entends, c'est que c'est beaucoup des produits qui sont raffinés avec oui. des sucres oui. Raffinés, donc à ce moment-là, je pense que c'est juste... Puis il y a beaucoup de gras dans les pâtisseries comme
oui,
ça. Hein.
Beaucoup plus alors, qu'on pense. Hein?
Exact. Donc, ben je pense oui. que ça fait juste oui. un genre d'effet reflux. Là,
et ça, Angèle, oui. est-ce que c'est maintenant que, ou ça, est-ce que ça le faisait avant?
Je peux te dire, écoute... Je pense que, bon, c'est un peu lié avec toute l'histoire dont vous êtes au courant, qui m'est arrivée en 2017, là, des coups très durs. Mais je me rends compte depuis un an, deux ans, que je dois faire attention à ça. Et s'il y a des semaines, parce qu'on vient de passer Noël, où là, j'ai tout fait les recettes traditionnelles inimaginables pour tout le monde.
Tout, blablabla.
Tout, j'ai tout fait. Là, mon fils est parti avec ça au chalet, avec plein de trucs.
Il y en a pour
et
des
ça
plans.
Ne me va pas, cette nourriture. Oh là, je vois ça. Bien que c'est beaucoup trop lourd pour moi.
Il
faudrait que j'aille faire du ski et puis des... Tu comprends, pour
le corps, il le dit. Hein,
le corps, à un moment donné, te le dit.
Ouais. Oui, et la source alimentaire.
Calme-toi,
aussi.
Là. Mange une poire seule ou mange un morceau de fromage seul. Ne le mêle pas avec une tranche
absolument.
De pain. Et les tendances qu'on a toujours, qu'on fait. Ouais. On mange le pain avec le fromage, avec le verre de vin. Ça ne marche pas. C'est trop des mélanges.
Trop
corps,
de plaisir
là,
en
c'est
trop même
lourd.
Temps.
Trop lourd. Non, mais c'est lourd pour le corps.
Un plaisir à la fois.
Merci.
Merci Claudine Larivière. Elle merci va revenir beaucoup. Nutritionniste et spécialiste en productivité humaine.
Exact.
Tire un
C'est bon pour la santé, un magazine animé par Sophie Stanquet et Benoît Rassette.
Alors, le métier d'actrice, eh bien, quand on vieillit, c'est pas évident. On peut être subjectif et dire, voilà, c'est des paroles en l'air qu'on dit depuis le début de l'émission. Eh bien non, mesdames, messieurs, je vais vous donner les statistiques au niveau de l'âge et des productions qui se sont faites, c'est-à-dire au niveau du doublage, du théâtre, du cinéma et de la télévision. Les 15 à 25 ans, il y a 3%. 26 à 35 ans, 32% de gens qui sont employés. De 36 à 45 ans, 36. 46 à 55 ans, 10%. 56 à 65, 14%. Et pour les actrices de plus de 65 ans, seulement 5% d'actrices travaillent dans le milieu. Alors, c'est pas évident. On parlait tout à l'heure qu'il y a au-dessus de 13 000 membres de l'Union des artistes, 602 à l'heure actuelle qui sont membres des comédiennes de plus de 65 ans, et ce sont véritablement les oubliés de l'industrie. Ginette Achin, qui est un agent d'artiste, a même dit les productions...
Qui est celle de
oui,
madame.
Elle même dit, elle est très au courant du dossier, elle a dit les productions ne favorisent pas le travail pour les plus de 65 ans. Au niveau de l'économie, des actrices, vous savez qu'il y a seulement 10% des membres de l'Union des artistes qui font plus de 20 000 dollars par année, pour vraiment vous dire la vérité sur ce fait-là. Des gens qui travaillent, et des actrices comédiennes qui travaillent beaucoup en ce moment, eh bien, il y a Micheline Longteau, Louise Porta. Je vous donne les âges parce que c'est important. Mm-hmm. Micheline Longteau, 69 ans. Marie Ekel, 68. Louise Porta, 66 ans. Et pour elles, ça n'a pas toujours été facile. Elles sont au courant qu'en ce moment, c'est l'âge d'or, c'est l'âge où elles peuvent faire des choses à l'écran, mais elles sont très, très conscientes que ça va passer et que ce n'est pas facile. Alors, est-ce qu'on doit faire de la chirurgie? Est-ce qu'il faut se présenter sur le vrai ou le faux? Et comment faire pour se débarrasser de cet agisme au niveau du métier de comédien et comédienne, Angèle?
Bon, a priori, j'ai rien de contre. À la base de la chirurgie, là. On ne va pas être plus
catholique que le pape.
Hein? Bon, d'accord, hein? Même si ce pape-là n'est pas trop pire quand même sur le lot. Mais je ne suis pas contre. Sauf qu'à un moment donné, ça devient une progression géométrique. C'est le syndrome qui prend les personnes, ça continue. Tu commences à faire du Botox, tu continues, au bout de 6 mois, il faut refaire. À un moment donné, bon, ben là, t'as les pattes de doigts, puis là, tu commences à avoir des poches sous les yeux, question de rein ou de fonctionnement plus lent de l'organisme. Il n'y a plus de fin à ça. Mmh. Et il y a une contradiction là-dedans, où je reviens, parce que tout à l'heure, on en a parlé. Les mêmes personnes, ben, je parle d'une personne, entre autres, très powerful, si vous voulez, dans le métier, me dit, écoute, fais rien, parce que c'est épouvantable, les chirurgies, un tel, c'est horrible, il n'y a plus d'expression, il n'y a plus d'âme dans leur façon de jouer, mais tu te rends compte que dans 2 mois, 3 mois, 4 mois après, ce sont les gens qui sont chirurgisés qui ont eu les jobs. Et moi, j'ai une anecdote savoureuse du temps de Borderline à l'Impérial, le soir de la première. Je nommerai pas le nom des comédiennes, je ne ferai jamais ça. Mais plusieurs sont venues me voir et elles me touchaient l'épaule. Et là, je suis obligée de dire tout haut parce que là, je le mime. Elle le mimait, la phrase. Elle le disait même pas tout haut. Elle disait, « Mon Dieu, que t'es courageuse d'avoir fait ça. » Mais elle le disait pas en mots. Là, je suis obligée à la radio parce que vous me voyez pas. Mais dans la vie, elle me le faisait en le mimant, ces mots-là, à voix très basse. Et c'était toutes des comédiennes qui, en réalité, étaient de ma même génération. Pourquoi elles me disaient ça? Je leur jette pas la pierre du tout. Uh-huh. On est dans le même sac. Mais elles étaient terrifiées, se sont dit, si moi j'accepte ça, d'ailleurs il y en avait une sur le lot qui l'avait pas pris, le rôle de Borderline, qui avait refusé, qui avait été horripilée, elle l'a pas fait, parce qu'elle savait très bien qu'après ces finales bâtons, on te catégorise. Mais moi, je l'ai fait parce que le rôle, je voulais me dépasser, puis je voulais faire quelque chose. J'adore ce métier-là.
Alors,
je l'ai fait quand même. Mais chose certaine, c'est qu'il est arrivé plusieurs années après où j'ai rien fait après Borderline. C'est Fabienne qui m'a fait faire à peu près ça, trauma, 2-3 jours de tournage, mais longtemps après, en 2009. Hein, j'avais tourné en 2006. Bon, puis là, ça a été plusieurs années. Puis là, on m'a ramassé, on m'a fait faire un petit rôle dans Trauma. Puis après, ben, je pense que Fabienne aimait bien ce que je faisais dans Trauma. Elle m'a donné Virginie, ce qui a fait que, bon, j'ai pu payer certaines dettes et tout, parce que j'étais très endettée. Et même... Pourtant, je ne suis pas archidépensière. Tu sais, moi, là, chez moi, là, je vis sans télé, sans câble, sans cellulaire, sans Internet, sans voiture. Et déjà, il faut que je fasse un budget, puis il faut que je fasse attention.
Unité 9, c'est...
Je ne suis pas là pour plaindre, là. Non. On ne joue pas le violon, mais faut, on dit les choses. Tant qu'à faire, on dit la vérité. Ouais. On dit les vraies choses.
Mais Unité 9, c'était un pied de nez à tous ces gens-là. Parce que dans Unité 9, c'était Angèle qui était là, et tout le monde a dit... Ouais. Moi, j'étais extrêmement
fâchée.
Mais
ça a pris 5 ans, c'est ça. 8 mois et 17 jours... avant d'avoir Unité 9.
Moi, j'étais fâchée parce que
les
gens...
5 ans, 8
disaient...
mois et 17 jours sans travailler
ça.
Dans
voilà,
mon métier.
C'est ça, exactement.
Et puis, pour après, on ne sait pas quoi faire. Mm-hmm. Avec le... Tu sais, c'était un peu triste. Mais il y a une de mes copines, elle m'a dit, ben, t'as eu le Gémeaux. Oui, je comprends, c'est charmant d'avoir un 7e Gémeaux. Mm-hmm. Je suis très contente. Un enfant m'a dit dans le salon l'autre jour, il dit, Angèle, parce que je ne veux pas dire qui était l'enfant, tu pourrais faire fondre ça, puis tu vends des petits bouts d'or. J'ai dit, écoute, chérie, c'est juste du métal doré, c'est pas de l'or. Parce que j'avais pas de boulot, puis essayait l'enfant de 9 ans de me trouver une solution.
Alors, est-ce qu'il y a...
C'est adorable, les enfants.
Il y a une injustice entre les hommes et les femmes.
Oui, oui.
Elle est là.
Absolument. Vous connaissez les statistiques au niveau de l'égalité des femmes? Alors, l'égalité entre femmes, c'est... les États-Unis sont au 49e degré. Enfin, au niveau de
mondial. Voyons,
oui, mondialement, et le Canada 16 en égalité des femmes.
C'est quand même mieux.
C'est quand même mieux. C'est mieux quand même. Hein,
dans,
le Canada.
Dans le métier, dans le métier, c'est vraiment, on le voit tout le temps. Vous l'avez vécu. Oui. Et moi, j'étais fâchée quand les gens me disaient, Angèle Coutu, je la découvre, elle est extraordinaire. Elle a toujours été extraordinaire. Une grande actrice.
Enfin, disons que j'ai eu la chance d'effleurer un peu ce métier.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire.
Est-ce qu'il faut
marcher dans les rues en tant que femme? C'est difficile. On a un métier un peu à part. Hein? On est dans le volatile. Hein? Mm. On est dans la fiction. C'est un petit peu difficile. Hein? Ouais. Et d'ailleurs, on joue beaucoup dans ce métier au niveau du pouvoir, hein? de nous séparer un peu. On dit c'est du cas par cas. Écoute, moi, j'ai un exemple extraordinaire d'Hélène. Il faut que je vous le dise. Hélène Noiselle, je l'adorais. J'ai joué une fois au théâtre avec elle. Son époux est décédé. Là, je peux parler de cette anecdote maintenant parce qu'elles sont malheureusement tous les deux disparus. Deux êtres extraordinaires. Des enfants merveilleux. D'ailleurs, ils en ont eu 5. Et Hélène s'en va, et ça, c'est il n'y a pas longtemps, là. Je ne parle pas des années 40, 50, 60.
Non, c'est bien d'arriver,
c'est
là.
Beaucoup plus tard que ça. Elle va pour un téléthéâtre délier son cachet. Elle n'avait pas l'agent à ce moment-là. On commençait à peine à ce moment-là à avoir des agents, les années 80. Tout le monde n'en avait pas, moi, j'en avais pas. Elle va à Radio-Canada, 19e étage, au Cerbère en question, qui a son grand bureau avec des fenêtres qui donnent sur Saint-Hilaire. En arrière, quand il fait beau, on voit jusqu'à Saint-Hilaire. Puis il était très irrité. Puis Hélène arrivait avec des chiffres. Elle était très matter of fact. Puis elle voulait avoir ce cachet-là pour ce premier rôle, le temps d'attente. Et elle connaissait très bien le syndicat de l'Union des artistes, qui quand même a écrit des choses sur papier qu'il faudrait essayer de pas trop contourner. Puis à un moment donné, il était découragé, il se lève, puis il dit, mais oui, mais écoutez, Hélène, Lionel, il travaille!
Épouvantable.
Eh oui.
Hélène Noiselle.
Ouais.
C'était pas une nouvelle venue, là.
Mais
ça, c'est une anecdote des années 80,
santé,
là.
On n'est plus en cas santé, c'est aussi la justice et la pauvreté,
oui,
parce
exactement.
Que c'est des... Quand il y a de la justice et de la pauvreté, puis de la difficulté à avoir une carrière continue, tout ça a des impacts. Vous êtes une actrice fracassante, mais on le sait qu'il y a des injustices. En tout cas, Sophie,
mais il y en a dans d'autres domaines aussi.
Voilà.
Écoutez, quand les travailleurs arrivent dans une compagnie, puis qu'il y a le cadenas sous la porte un matin pour travailler, puis le gars, il a 51 ans, puis il a 3 enfants, puis une mère à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il se recycle comment? Comment il fait? Puis le gars qui arrive à son travail, puis à la machine à café à 10h le matin dans sa compagnie, on lui dit, écoute, à midi, tu claires ton bureau, puis il y a deux agents de sécurité de la boîte qui viennent voir qu'il part pas trop avec des objets. l'objet de la compagnie, puis qui va leur conduire dans le hall d'entrée en bas, c'est aussi injuste.
Exactement.
Pour faire attention. Dans toute la société, c'est comme ça aujourd'hui.
Sa soif, c'est aussi une soif de justice. On le partage avec toi.
Oui, tout à fait.
On partage. Des fois, trop parler des comédiens.
Non, vous avez raison.
C'est le MeToo, machin. Faut faire attention. Parce qu'il y a des tas de femmes qui font des boulots épouvantables et sous-payés. Hein, faut faire attention.
Et qui vivent aussi ces agressions.
Horrible. En plus.
Mais là, on va parler avec notre docteur. Ça va nous aider à se remonter le moral pour savoir comment y arriver. Et puis, on revient avec lui après cet instant musical.
Alors, mesdames, messieurs, nous sommes en compagnie de François Baruel, médecin de famille. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on parle de la santé vieillissante. Et qu'est-ce que c'est qu'on peut faire pour améliorer, finalement, notre santé, l'âge sur le corps? Est-ce qu'il y a des miracles?
Alors, il n'y a pas de miracle, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire. Notamment, déjà, pour conserver un aspect, ou du moins pour pas que la peau s'abîme trop vite, il faut vraiment la protéger. On en parlait d'ailleurs dernièrement, une autre émission. Il faut éviter le soleil. Ça, il faut éviter le soleil, mais dès qu'on est petit, il faut éviter les coups de soleil et les brûlures de la peau. Parce que les brûlures de la peau font le vieillissement prématuré quand on est adulte, et ensuite, ça peut dégénérer.
Alors, donc, le soleil...
Il faut l'éviter au maximum, puisqu'on en a quand même pas mal. Et au besoin, d'ailleurs, on peut prendre de la vitamine D si on n'a pas finalement suffisamment de soleil.
Est-ce qu'on doit l'hydrater plus, notre peau, en vieillissant?
Il faut toujours s'hydrater, bien sûr. Il faut boire, mais pas forcément l'hydrater par la peau elle-même. C'est une question de cosmétologie. À vrai dire, l'hydratation par l'intérieur est primordiale. Enfin, pour moi, c'est le plus important. C'est qu'à dire qu'il faut vraiment boire.
Ah oui, de l'eau. Alors, est-ce que le litre d'eau est conseillé encore
Ça dépend de chacun. C'est vrai, c'est Claudine qui parlait de ça. Hein, et je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est pipi clair. Constamment. Il ne faut jamais être concentré. Il ne faut pas être concentré parce que ça entraîne un surcroît de travail pour le rein. Ça entraîne des tas de choses, en fait.
Alors, le pipi clair, donc on boit de l'eau, ne voir que c'est clair.
Exactement.
Ouais. OK. Ouais. Alors, au niveau de l'âgisme, j'ose vous demander, je posais la question, est-ce qu'il y a de l'âgisme au niveau des médecins?
Oui.
Ah, ça, parce que là, on a parlé tout à l'heure des comédiens. Et puis, parce que c'est notre métier, mais Angèle a parlé des autres métiers aussi, du monsieur qui se fait renvoyer à 50 ans avec sa famille et tout. Mais au niveau des médecins, est-ce que vous sentez la même pression qu'on a, nous, dans notre métier, de dire, il y a des plus jeunes en arrière?
C'est, au point de vue des médecins, pour les médecins eux-mêmes?
Oui.
Pour les médecins eux-mêmes, oui, enfin, forcément, puisqu'en fait, ce sont ceux qui sortent de l'école, qui sortent de l'hôpital, qui sont évidemment plus à la mode, disons, et puis qui sont plus au fait, apparemment. Mais bon, il manque aussi la question de l'expérience et de l'humain.
Et au niveau de la pratique, c'est-à-dire que, comme clientèle, si vous avez des personnes âgées, est-ce que vous ressentez
l'âgisme?
Est-ce que vous sentez qu'on prend moins de temps, qu'on a la prescription trop rapide ou on n'écoute pas?
En fait, c'est vrai que tous les médecins sont imprégnés d'âgisme, comme tout le monde, comme nous tous. Quand on parle toujours des petits vieux, hein. Les pauvres petits vieux ou la petite vieille, hein, c'est vrai. Et en fait, ça n'a rien à voir. Hein. Chaque individu est différent. Mais on a tendance à les mettre dans des catégories d'âge. Donc on sait, on se dit 50, 60 ans, 60, 70. Ah, 75, il va peut-être arriver ça, il faut que je regarde ça en premier. Mais en fait, non. Alors on a tendance à se dire, il est dans cette tranche d'âge, je vais lui mettre un protecteur vasculaire, tiens. Allez, on va lui donner quelques gouttes de ceci ou de cela, etc. Et c'est comme ça que ça se passe un petit peu quand même.
Et dans la pratique, j'ai vu ça dernièrement sur les étages. Dès qu'il y a une personne âgée, souvent les gens lui parlent comme si la personne était sourde.
Tout à fait, comme si c'était
infantilisant.
Un débile.
Oui, mais alors ça, est-ce qu'on apprend? On donne des cours à l'université en disant, écoutez...
Non, il y a
absolument aucun cours. Mais qu'est-ce que c'est que cet élan que les médecins ont de finalement penser exactement que parce que c'est une personne âgée et qui est malade, on va lui parler en débile?
Ben voilà. C'est une facilité. En fait, je pense que chacun rentre dans un rôle. On demande d'ailleurs aux patients de rentrer dans le rôle de celui qui va se faire soigner sans rien dire et sans dire un mot. On ne donne pas le pouvoir, on ne donne qu'une autorité ou qu'une possibilité au patient de s'exprimer ou d'avoir son libre arbitre. Mmh. Et c'est vraiment, on traite en fait les patients du coup comme des objets. Et ce qu'il faut faire, c'est évidemment l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut discuter avec les patients, c'est voir, discuter avec eux s'ils sont d'accord pour tel traitement, si ceci, mmh. cela. Et puis d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a autant de malades, autant de petits vieux, entre guillemets, qui sont sous calmants, somnifères?
Voilà.
Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils sont angoissés, ces gens-là. Et on ne leur parle pas. Mmh. On ne leur pose jamais la question de savoir quand ça va. Vous êtes heureux? Qu'est-ce qui se passe? Vos enfants, ils viennent, machin, etc. Jamais on ne parle de psychothérapie pour les vieux. Ça fait rigoler. La psychothérapie, c'est pour ceux qui produisent. C'est pour ceux qui sont jeunes, qui vont avoir des enfants, ou qui ont des enfants, ou pour les enfants de ces gens-là. Mais ce n'est pas pour les grands-parents.
Donc on a tendance à faire des prescriptions plus qu'à donner une main sur l'épaule, plus que de donner des paroles rassurantes.
Tout à fait. On a tendance plutôt à allonger la liste de médicaments plutôt qu'à d'écouter les gens. Parce que c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus longs à se déshabiller. C'est un vrai qu'ils sont un petit peu plus longs à dire les choses. Du coup, on a tendance à prendre la tension artérielle sur le manteau. C'est plus facile, c'est plus simple. Alors qu'il faudrait retirer le manteau, relever la manche, prendre le temps et d'écouter, de dire « Ah oui, mon fils, mon machin, etc. Comment est-ce qu'il se passe ?» Et c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai qu'on n'a pas le temps. C'est vrai qu'il y a 25 personnes derrière. C'est vrai qu'on commence à prendre du retard, etc.
Est-ce qu'on a tendance à voir les personnes âgées comme des gens qui se plaignent tout le temps en médecine?
Non, non. En fait, on les voit comme des demandeurs, en fait, principalement. Ils sont demandeurs d'attention. Parce que c'est vrai qu'ils sont souvent seuls. Et finalement, les médecins sont probablement quand même ceux qui, au moins, devraient leur apporter quelque chose. Mmh. On est finalement, théoriquement, on est là quand même pour les écouter.
Mmh. Mais on ne les écoute pas assez.
Non, on ne les écoute pas assez. Mais là encore, on doit dire que les soins devraient être humains, comme on disait la semaine dernière, mais pas seulement médicamenteux. Il devrait y avoir de la psychothérapie ou des groupes de thérapie pour les gens âgés, plutôt que de leur donner des médicaments et les assommer.
Est-ce qu'on dit souvent, quand il y a une personne qui va dans votre cabinet et que la personne est à 70 ou 80, est-ce qu'on dit souvent le mot « c'est normal » que vous ressentiez ce
ça,
mot-là?
Ça, c'est une chose que je n'ai jamais pu supporter et que je n'ai jamais accepté de dire. Mais c'est vrai que c'est un raccourci qui permet de mettre la personne plus facilement et plus rapidement dehors.
Alors...
Mais
ah
c'est
oui,
vrai que c'est insupportable.
Il les met dehors.
Non, mais pour abréger la consultation, si on lui dit c'est normal, il est vrai que... Non, il faut lui expliquer, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas forcément normal, mais en même temps, on peut lui expliquer des choses pour qu'elle l'accepte et qu'elle ne soit pas triste à cause de ça, en fait.
Est-ce qu'il faut éviter les antidouleurs quand on est... plus on vieillit, plus... Parce que souvent, ça a des effets secondaires.
Certains antidouleurs ont des effets secondaires, notamment l'aspirine, qui, en cas de hernie hiatale, comme tout à l'heure, vous en parliez, oui. N'est-ce pas? C'était vraiment typiquement ça. Oui. Donc ça peut provoquer des saignements. Alors, donc ça, il faut éviter l'aspirine dans ces cas-là. Mais par contre, on peut prendre du paracétamol, des choses comme ça, qui sont des antidouleurs sans effets secondaires, qui sont efficaces.
Les calmants pour la nervosité?
Les calmants pour la nervosité, non. Enfin, on peut bien sûr toujours en donner aux gens âgés, mais en même temps, ça n'est que mettre la poussière sous le tapis. C'est vraiment quelque chose qui est... Et qui, en plus, les empêche de vivre correctement. Parce que quand on leur donne des calmants, ils sont calmés, mais un peu... C'est abruti, finalement. Si vous avez essayé vous-même, c'est abrutissant, quoi. C'est quand même pas agréable.
Et ça peut se créer une habitude, parce qu'il y a autant de gens qui ont des dépendances âgées que jeunes.
De plus, les calmants, quand on les donne à long terme, on s'est aperçu que, notamment, le diazépam, qui est vendu sous le nom de Valium, et les anxiolytiques, les anxiolytiques et les diazépans se donnent des accès de sénilité, de démence, et donnent des symptomatologies qui ressemblent un peu à l'Alzheimer. Donc ça finit par être très mauvais, ça, ce genre de choses. Ça peut accélérer la dégénérescence.
Alors moi, je m'adresse toujours aux médecins. Je veux savoir... Je suis une personne âgée, je viens dans votre bureau. Qu'est-ce que vous allez me prescrire? Mais je suis en forme, là. Mais pour rester en forme?
Pour rester en forme, déjà, voilà, il faut d'abord... Claudine en parlait tout à l'heure, il faut bouger. Il faut bouger. Non seulement il faut faire des efforts musculaires pour stimuler cette fabrication de masse musculaire, Mais il faut aussi bouger ses articulations pour être souple, pour éviter de tomber, pour ceci, pour cela. Et puis, il faut aussi essayer de rencontrer du monde. Il faut voir beaucoup de monde. Il faut essayer de ne pas rester chez soi.
Oui, l'isolement.
L'isolement, c'est ce qu'il y a de pire.
La solitude, c'est ce qui tue.
C'est ce qui tue. La solitude tue. Ça, c'est sûr et certain. Ça rend malade, c'est certain.
Donc, voir des gens bouger.
Faire de visiter, pourquoi pas aller voir des musées, mais avec des amis, des choses comme ça. Lire.
Et c'est ce que vous avez le plus dans votre cabinet, des gens qui sont seuls?
Ce sont souvent des gens, c'est pas forcément des gens seuls, les gens seuls sont pas forcément, c'est pas les plus nombreux. Mais il y a toujours un sentiment de solitude chez les vieux, chez les gens âgés. Il y a toujours un sentiment de solitude qui est sous-jacent. Et ça, il faut le traiter.
Alors, on va aller à la question. Vous savez que vous avez une question chaque semaine, docteur?
Mais même avant là, d'arriver à la question, oui. Moi, j'aurais envie de demander à Angèle Coutu qu'est-ce qu'elle en pense, comment elle reçoit toute cette émission.
Extraordinaire. Je voulais juste ajouter une petite anecdote. Quand maman faisait sa gérontologie la dernière année, elle a voulu retourner dans un établissement au plateau, que je nommerai pas, parce qu'elle avait connu des gens, personnes âgées intéressantes et tout. Mais elle avait trouvé qu'il y avait des choses inventives. Alors, elle se rend automatiquement dans le building, elle s'en va à la salle, elle ouvre une porte, il n'y a plus rien. Alors, je me dis, je suis folle, j'ai pas la mémoire. Alors, elle demande à une préposée, ben, la salle où il y avait les animaux, là, je suis rentrée, il n'y avait rien. Elle dit, elle dit, on n'a plus ça, là, la zoothérapie, madame, elle dit, on n'a plus ça, c'était trop de troubles. Elle dit, on a mis un bar à la place. Alors, ils avaient un bar, parce que maman avait ouvert la porte, elle n'avait pas vu le bar, elle avait vu juste le trois quarts de la salle vide. Alors, ils avaient un bar. Donc, en plus de toutes les pilules qu'ils prenaient dans les petites copes en papier, ils allaient prendre un drink avant d'aller souper à 5 heures le soir. C'était ça, l'activité. Ils avaient changé la zoothérapie pour le bar. Bon. C'était moins cher.
Il vaut mieux le bar sans les médicaments.
Moins trop.
À petite dose.
Et donc,
justement, comme on est en point d'orgue à cette émission, on vous pose la question, Angèle Coutu. Oui. Quelle question vous aimeriez poser à votre médecin, mais que vous n'avez jamais posée? D'ailleurs, vous pouvez le faire avec Dr Baruel en face.
Ben, c'est tout simplement ça. C'est que, est-ce que vous croyez qu'on donne trop dans les CHLD, toutes les institutions, des personnes âgées, trop automatiquement de médication? Est-ce que c'est réel, ça, cette intuition-là?
C'est vraiment
c'est
la question
faux?
Qui tue, ouais. Ça.
C'est la question qui tue, mais, elle est bonne, justifiée.
Oui, tout à fait.
C'est vrai que quand on épluche les ordonnances, c'est vrai qu'on coupe beaucoup, en effet. Ouais. Et c'est vrai que tous les médicaments qui ne sont pas organiques, tous les médicaments qui ne sont pas justifiés d'un point de vue cardiaque, d'un point de vue ou ceci ou cela, souvent, c'est du confort, peut-être pour le malade. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est le confort pour la famille, l'entourage et peut-être le médecin aussi. Mais c'est vrai qu'on donne trop de médicaments. Et c'est vrai que la zoothérapie, c'est une chose très bonne, c'est vrai.
Mais bien sûr. Plus de chats, plus de chiens.
J'allais dans une résidence récemment pour faire mon petit truc de poésie. Et la dame m'a dit, vous voulez visiter un appartement? Parce que je suis en train vraiment de prendre des décisions actuellement, à savoir, trop long à expliquer. Et elle me dit, j'ai été une des premières qui a institué ça. Alors, les personnes étaient venues me voir avec leur petit chariot, puis leur petite bestiole extraordinaire. Les plus gros étaient à peu près comme ça, là. Tu sais, pas les petits chiens affreux qui jappent continuellement les yeux exorbités, là, mais des très beaux petits chiens adorables, popés et tout. Oui. Formidable. Oui. Elle a été une des premières à faire ça. J'ai dit, madame, bravo. Parce que c'est la base. Même mon petit-fils de 8 ans et demi le sait, ça, que c'est la zoothérapie. Même lui, il n'est pas allé à l'université, il y a 7 ans et demi. Puis c'est déjà que ça existe.
Mais vous appelez déjà une émission qui va venir bientôt sur la zoothérapie. Il faudrait peut-être vous réinviter. Et c'était très heureux. Merci beaucoup.
J'ai appris beaucoup, j'ai pris des notes. Merci beaucoup.
C'est un bonheur.
Merci
à notre équipe. Alors, aux chroniqueuses et chroniqueurs, Claudine Larivière, Dr François Baruel, Mali Pradichi, Laurent Trépanier, Capistra, pardon.
Et cette émission n'aurait pas été possible, bien sûr, sans Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagna aux communications, Catherine Bourderon à la recherche.
Qu'on se le dise, les personnes âgées ont droit de citer et n'ont pas dit leur dernier mot.
Ici Benoît Racette.
Et Sophie Stanquet.
C'est bon pour la santé!